Le 13 mars 2025 a eu lieu à la maison diocésaine de Bayonne une conférence de presse convoquée par Mgr Marc Haillet sur les violences et abus sexuels dans l'Église. Mgr Haillet était accompagné de Vincent Desté, directeur diocésain de l'enseignement catholique, et du père Laurent Bachot, bétaramite. Voici comment a débuté cette conférence de presse du 13 mars.
Voilà, bonjour à tous et bienvenue donc pour cette...
Soutien aux victimes ! Soutien aux victimes !
Très bien.
Je suis Arnaud Gallet, je fais partie des 330 000 victimes de pédocriminalité dans l'Église et je dénonce ce simulacre. Vous avez refusé, monsieur Haillet, d'ouvrir vos archives au moment de la SIAZ. Vous êtes responsable et c'est un simulacre ici. Que la justice de ce pays, en fait, se fasse. Que justice se fasse pour les victimes, c'est scandaleux. Et nous ne lâcherons pas. J'ai été violé entre l'âge de 8 ans et 11 ans. Je ne lâcherai pas. Je soutiens mes frères de Bétaram. Je soutiens mes frères et sœurs de Garaison. Vous êtes la honte. Et la justice ne fait rien. Et monsieur Retailleau ne fait rien. Le ministre des cultes, que fait l'enseignement catholique? La honte, c'est facile aujourd'hui, faites un service après-vente. Ce gant blanc, c'est pour les victimes de violences sexuelles dans l'Église. Nous ne lâcherons pas, entendez notre colère.
Arnaud Gallet, cofondateur de l'association Move Enfants, au début donc de cette conférence de presse du 13 mars. À la fin de la conférence de presse, nous avons pu l'interroger en présence de Mgr Haillet.
Arnaud Gallet.
Voilà, vous êtes le représentant de Move Enfants. Qu'est-ce que c'est cette association?
C'est un mouvement en fait de survivantes et de survivants de violences dans leur enfance, notamment de violences sexuelles, et leurs alliés qui luttent activement contre toutes les formes de violences, et notamment les violences nombreuses qui sont perpétrées dans l'église, en fait, dans différents établissements, dans des diocèses, etc. et autres. Et on interpelle en fait nous. En fait, l'État, sur son inaction, son immobilisme, parce qu'on considère que l'Église, en fait, devrait être mise depuis longtemps sous contrôle judiciaire au regard des crimes et du sang qu'elle porte sur ses mains.
Alors Arnaud, vous avez été violé pendant 3 ans, d'après ce que j'ai compris, c'est ça, dans un établissement d'enseignement catholique?
Alors moi, j'ai été violé pendant 3 ans, donc entre l'âge de 8 ans et 11 ans, par un prêtre pédocriminel qui appartenait à la congrégation Don Bosco. Et c'était quelqu'un qui était un grand-oncle également, donc il venait dormir chez mes parents, et c'est dans ce cadre-là, effectivement, que j'ai été violé quand il rentrait du Gabon, notamment, et du Maroc.
Dès le début de la conférence de presse, Arnaud, ici présent, vous a interpellé, Mgr Haillet. Comment vous avez perçu cette interpellation?
D'abord, j'étais surpris, bien sûr, mais en même temps, je la comprends. Je pense qu'elle a donné aussi une tonalité à notre conférence de presse, parce que je crois pouvoir dire sincèrement que la préoccupation principale de l'Église, en tout cas dans notre diocèse, c'est vrai dans l'enseignement catholique, c'est vrai dans le diocèse de manière générale, ce sont les victimes. Et je reconnais que c'est depuis que la parole s'est libérée dans ce domaine que nous avons pris conscience davantage de l'impact qu'il y avait sur les victimes, de tous ces drames qui ont été perpétrés au sein de notre institution. Et malheureusement, pas seulement de notre institution, je le répète, ça n'est pas pour me dédouaner, mais je vois bien qu'il y a un contexte général qui est vrai aussi, et je pense que monsieur ne me contredira pas, parce que là aussi, il intervient, l'éducation nationale aussi, et je pense que l'Église, c'est ce que j'ai voulu dire, c'est pas une manière de se disculper, car je le dis avec beaucoup d'humilité et beaucoup de modestie, l'Église est la première institution en France qui a pris les choses un peu en main depuis l'an 2000 et de manière accélérée depuis le rapport de la SIAS.
Vous regrettez l'inaction quelque part de la justice, mais qu'est-ce que vous attendez de l'Église, des évêques par exemple?
Moi j'attends rien de l'Église, j'attends rien des évêques, vous savez, moi je crois même plus, je comprends effectivement les personnes qui y croient, mais on m'a retiré ma foi d'une certaine manière, donc ça fait quand même longtemps. Moi ce que j'attends simplement, c'est que je suis citoyen français. J'attends que ce soit l'État, à un moment donné, qui permette de dire effectivement que c'est sécurisé. En fait, ce n'est pas à eux de se faire justice eux-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien se rendre compte qu'il y a des commissions indépendantes qui sont mises en place, comme à Bétaram. Alors, on peut en dire ce qu'on veut, mais effectivement, si elles sont mises en place, c'est parce qu'il y a une inaction de l'État. En réalité, si la justice fonctionnait dans ce pays, c'est la justice qui devrait être présente. La justice est aux abonnés absents systématiquement, que ce soit au niveau des commissions réparation qui sont mises en place, donc la CRR, la commission reconnaissance et réparation, et l'INIR au niveau des diocèses. On peut regretter quand même que ce soit des expériences de justice. Est-ce que les victimes doivent subir une nouvelle expérience? Moi je dis non. Je dis qu'à un moment donné, il doit y avoir une justice d'exception quand on dit dans ce pays qu'il y a un crime de masse qui compte 330 000 victimes de pédocriminalité en 70 ans, 13 enfants par jour. La justice fait quoi dans ce pays? On dit simplement que c'est à l'Église de se faire justice elle-même. C'est insupportable. Ce n'est pas possible, à mon sens. C'est ça qu'on demande.
Alors, vous avez dit lors de la conférence de presse que l'Église avait commencé à prendre la mesure de tous ces actes d'abus sexuels à partir des années 2000. Donc, ça fait 25 ans. Il y a eu tout un cheminement quand même dans l'Église, de la part des évêques, des prêtres, des éducateurs. Où on en est aujourd'hui?
Je crois qu'on en est à des décisions qui ont été prises après le rapport de la CIAS, même si elles avaient commencé à être mises en œuvre avant. D'abord, qui est de mettre en place dans nos diocèses des cellules d'écoute et d'accompagnement des victimes. Ensuite, d'avoir des instances indépendantes de reconnaissance et de réparation, l'INIR pour les prêtres diocésains, la CRR pour les religieux, et ensuite d'établir une journée mémorielle. Et aussi, quantité de programmes de formation et de prévention que nous mettons en place, encore une fois, auprès de tous les intervenants pastoraux auprès des publics fragiles, des enfants et des jeunes.
Des victimes demandent la destruction de Bétaram. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je ne pense pas que ce soit juste. Que le collège se réforme, et je crois qu'il s'est depuis un certain temps réformé, c'est très important. Qu'ils prennent acte de du passé et qu'ils l'assument de manière responsable vis-à-vis des victimes d'aujourd'hui, c'est très important. Mais Bétaram est d'abord un sanctuaire qui dépasse largement les pères de Bétaram, puisqu'il date du XVe siècle, et Saint-Michel Garicoïs est un saint qui sans doute se retourne aujourd'hui dans sa chasse, étant donné les drames qui ont été perpétués par ses disciples.
Quelle est la parole que vous voulez adresser aux chrétiens qui se posent quand même des questions en ce moment sur tout ce qui s'est passé dans les écoles catholiques, dans les collèges catholiques, dans les lycées catholiques? Qu'est-ce que vous voulez dire aux familles qui ont des enfants aujourd'hui dans l'enseignement catholique?
Je leur dis qu'on peut faire confiance davantage aujourd'hui en ce moment catholique. Je leur dis qu'il faut être vigilant, que je pense que le directeur diocésain de ce moment catholique, ainsi que les enseignants qui sont formés à cette prévention, sont beaucoup plus vigilants qu'ils ne l'ont été. Et je leur dis que nous faisons tout notre possible pour que cela ne se reproduise plus. Et qu'ensuite, il ne faut pas non plus faire l'amalgame complet entre des brebis galeuses et l'ensemble de ceux qui se donnent de manière très, très fidèle et très bienveillante et très bien traitante auprès des élèves de leurs établissements.
On a quand même l'impression des fois que ces brebis galeuses, comme vous dites, elles ont été quand même protégées par l'institution. Elles ont été déplacées, on l'a dit, on l'a entendu lors de la conférence de presse. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un pardon à demander de la part de l'Église pour tout ça?
Oui, mais l'Église demande pardon. Moi, je ne demande pardon aux personnes qui ont été abusées, qui viennent me voir, au nom de l'Église. Je demande pardon au nom de l'Église, au nom de ceux qui ont commis ces actes, qui sont pour aujourd'hui décédés et qui n'ont pas été sous ma responsabilité. Mais pourtant, bien sûr que l'Église demande pardon. Les hommes d'Église d'aujourd'hui demandent pardon pour ceux qui ont été coupables de tels crimes.
Un dernier mot avec vous. Donc vous faites partie de Move Enfants. Vous organisez une caravane en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Eh bien, en fait, c'est très simple. On se dit qu'il y a une dimension culturelle. Et pour nous, l'idée, c'est de se déplacer dans des villages en France, y compris dans les Outre-mer. Donc là, on s'est déplacé à Baïgorry, on a été à Espelette, on va être à Bayonne vendredi. On va être d'ailleurs sur le campus également qui est prévu samedi. Et pour nous, c'est de mettre en débat en fait cette question-là et de faire un principe de réparation collective. Parce que les victimes parlent, c'est pour que les choses bougent. En fait, elles ne bougent pas assez. Et voyez, moi, je reviens sur la question de Bétaram. Nous, on demande la fermeture de Bétaram et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on pense qu'il faut au bout d'un moment un mémorial qui permet de se dire dans chaque territoire, on peut identifier et on n'oublie pas. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne passe pas l'éponge et une plaque ne suffit pas, en fait. C'est-à-dire quand on parle de massacre de masse, vous voyez, je parle aussi, nous, on s'est déplacé pour le village d'enfants de Riomont, à côté d'Arras. Scandaleux. On voit qu'aujourd'hui, il y a encore de nouvelles affaires avec de nouveaux prêtres inculpés. À quel moment est-ce qu'on ferme ce type de lieu et on arrête un peu d'appeler ça un village d'enfants de Riomont, etc. Et on se dit, on en fait un mémorial pour qu'on n'oublie pas. Et là aussi, tout le monde savait. C'est toujours pareil. Vous voyez, moi, ce qui m'a scandalisé, par exemple, aujourd'hui, je vous le dis de manière très claire, c'est d'entendre encore la congrégation Bétaram, on a l'impression qu'ils découvrent. Mais c'est faux. C'est du mensonge, en fait. C'est du mensonge qui est encore dit aujourd'hui, alors que tout le monde sait. Enfin, je vous dis, j'ai été à Baïgorry. Les premières paroles, c'est les gens disent bien quand on était petit, on disait c'était pas ça, tu vas à Bétaram. Donc tout le monde savait, en fait, partout. À Espelette, c'est pareil. Et c'est pour ça qu'on peut pas entendre ça. Et me dire qu'aujourd'hui, ils sont dans un principe de réparation, mais c'est faux, en fait. C'est faux, je le dis, parce que la première chose serait de dire on reconnaît qu'on savait, en fait. Et là, ils disent tout le contraire. Ils disent on découvre. Bah non, je suis désolé, on ne peut pas dire ça. Moi, je vous dis, n'importe quelle personne aujourd'hui, la caravane, et c'est vraiment le hasard du calendrier, tous les gens nous disent, mais à Bétaram, on a connu des gens qui revenaient avec l'oreille arrachée, etc., etc. Tout le monde savait. Et lui, qui est dedans, nous dit, bah non, il découvre. Bah, encore aujourd'hui, il ose.
Mais c'est lui, vous parlez du père Laurent Bachot.
Bien sûr, je parle du représentant, effectivement, de la congrégation. Je trouve ça scandaleux, je trouve ça grave, en fait. Et ça montre bien la toute-puissance et l'impunité d'une congrégation. Et ça, c'est insupportable. Ça se passe en France et c'est insupportable. On est en 2025, ça devrait même plus avoir lieu.
Merci Arnaud de Mouve Enfant. Pour terminer, Monseigneur Hayet, le 28 mars, il y a la journée mémorielle de l'Église catholique dans toute la France, pour se rappeler, justement, de tous ces abus qu'il y a eu. Alors, qu'est-ce qui va se passer à Bayonne ?
Eh bien, normalement, j'ai envoyé un document qui nous est fourni chaque année par la Conférence évêque de France à tous les curés pour qu'ils puissent marquer ou bien le vendredi 28 mars, qui est la date choisie, le troisième vendredi de carême par les évêques de France il y a déjà quelques années, ou le dimanche précédent, de faire mémoire des victimes d'abus, d'inviter même les victimes potentielles à venir nous rejoindre. Et moi-même, je présiderai un chemin de croix le vendredi 28 mars à 11h, suivi de la messe à la cathédrale de Bayonne.
Merci, Monseigneur Ayé. Père Laurent Bachot, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes chargé pour la congrégation des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus de Bétaram, de tout ce qui relève des abus et des violences commises à Bétaram.
Avec la cellule des coups d'accompagnement qui est composée de Jean-Marie Ruspil, de Jean-Dominique Delgue et de Simone Panzeri en Italie.
Or, ce 13 mars, lors de la conférence de presse, vous avez été mis en cause par Arnaud, une victime d'abus sexuels. Comment vous avez ressenti cette mise en cause ?
Bon, mais mise en cause, c'est surtout une colère. Bon, on s'attendait aussi qu'il y ait une colère. Bon, je crois que nous étions, moi en tout cas, j'étais dans cette disposition de pouvoir accueillir cette colère. Mais je pense que, au-delà de cette colère, parce que, bon, un chemin sera possible. Et je suis plus dans cette espérance-là de chemin qui va s'ouvrir à partir des décisions récentes que nous avons prises.
Alors vous avez parlé d'aveuglement de la congrégation par rapport à tous ces faits, parce qu'ils sont quand même nombreux à Bétaram. Comment vous expliquez cet aveuglement ?
Cet aveuglement, comme je l'ai dit, c'est pareil, je crois que le fait très important qui a provoqué cet aveuglement, c'est cette exhumation de Pierre Caricard, quoi.
C'est-à-dire à la demande de la justice, c'est ça ?
Oui, à la demande de la justice, parce que la justice pensait que, comme il n'avait qu'un mètre 72 et que dans le rapport c'était 1m75, donc qu'on avait joué quelque chose. Donc ça nous a meurtri, quoi. Et donc je pense qu'on a, pas vu tout le reste, quoi. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui on est confondu, on ne peut pas expliquer cet aveuglement, quoi.
On sent bien que la congrégation, quelque part, a été un peu dépassée les derniers temps par toutes ces plaintes qui ont été déposées à Pau auprès du procureur. Mais vous êtes sur un chemin, vous l'avez dit, un chemin qui a pris certes du temps, vous l'avez reconnu lors de la conférence de presse. Alors qu'est-ce que vous allez mettre en place pour aider les victimes, pour réparer ?
Comme on l'a dit, mais peut-être pas assez précisément, donc ce que nous allons faire très vite, j'imagine et j'espère, donc une rencontre possible des victimes qui souhaiteraient à Bétaram avec la congrégation. Sous l'égide, oui, la médiation c'est et de l'IFJD et de la commission indépendante, quoi. Donc il va y avoir ça. Donc ça c'est la première chose qui doit se faire. Et aussi si vous voulez, le fait de fabriquer une plaque, mais en concertation avec les victimes, pour que ça puisse se réaliser. Et puis donc tout ce qui peut favoriser la reconnaissance et puis le début de la réparation avec les moyens que nous avons, parce que là aussi on veut pas laisser croire que nous avons tellement de moyens, et nous allons faire donc tout notre possible pour apporter un réconfort, un soutien, pour que des gens qui ont été meurtris, surtout par les abus sexuels, mais aussi par les violences physiques, puissent ressentir notre compassion, voilà, c'est ça, et que ça puisse permettre qu'ils puissent se reconstruire un peu plus, et que peut-être que En recevant comme un soin par rapport au passé, ils puissent envisager un peu plus positivement leur avenir, quoi. Mais déjà, si vous voulez, je pense que des actions sont entreprises. Bon, il y a des rencontres possibles. Il y a 2 mois, nous ne pensions pas, mais je crois que tous nous faisons un chemin et très prochainement, je pense qu'il y aura des rencontres importantes par rapport avec des victimes. Et je pense que dès samedi aussi, il y aura donc la parole des victimes dans ce forum. Et donc nous allons aussi recueillir cette parole-là.
Pour terminer, Père Laurent Bachot, que penserait Saint-Michel Garicoïste de tout cela ?
Bon, je crois qu'il partagerait notre tristesse, notre effroi, notre honte. Mais je pense qu'en même temps aussi, il considérerait ce que nous sommes, ce que nous avons déjà fait et ce que nous sommes en train de faire. Et ce que nous voulons faire, c'est un engagement complet. Hein. C'est un engagement complet. Et je pense qu'il nous engagerait à poursuivre ce chemin et à faire face aux différentes situations difficiles pour continuer le chemin. Et voilà, je crois que c'est ça. Et il nous dirait en avant toujours.
Merci beaucoup, Père Laurent Bachot. Gilles Parent, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez présent ce 13 mars à la conférence de presse organisée par l'évêché de Bayonne. Alors vous représentez le collectif des victimes de Saint-François-Xavier d'Ustaritz, ancien petit séminaire. À l'époque où vous y étiez, vous aviez quel âge ?
12 ans, j'ai dû rentrer à l'âge de 12 ans, 11 ans, 12 ans.
Alors pourquoi la parole se libère qu'aujourd'hui concernant Saint-François-Xavier d'Ustaritz ?
Et parce que le groupe a été créé il y a 3 semaines. Personne n'en avait parlé avant, il n'y avait pas d'endroit où en parler. Donc maintenant que le groupe est créé, les témoignages commencent à arriver.
Alors c'est l'affaire Bétarame qui a suscité la délivrance de la parole chez vous ?
Oui, c'est ça. Quand j'ai entendu parler de l'affaire Bétarame, je suis allé sur le groupe de Bétarame, j'ai lu quelques témoignages et je me suis rendu compte en fait que c'était exactement ce qu'on avait vécu à Ustaritz. Et je me suis dit, s'ils disent là-bas que c'est pas normal, c'est que c'est pas normal à Ustaritz non plus. Donc je vais créer un groupe et on va en parler entre nous.
Vous, qu'est-ce que vous avez vécu à Ustaritz ?
De la violence presque quotidienne, des coups, de l'humiliation, privation de nourriture. De la violence pure.
Pas d'abus sexuel ?
Dans mon cas, non, mais dans le groupe, il y en a.
Alors vous représentez combien de personnes aujourd'hui ? Parce que la parole se libérant, le groupe va certainement grandir.
Voilà, donc dans le groupe pour l'instant il y a 100 personnes, à peu près une centaine de personnes, mais pas énormément de témoignages. On a une dizaine de témoignages, on va dire.
Quelle est l'écoute que vous avez reçue du chef d'établissement, Ustaritz, et des autorités diocésaines ?
Je n'ai pas été reçu par le chef d'établissement. J'ai juste été reçu tout à l'heure par Monseigneur Hayet. Il m'a pris à part avant la conférence pour me dire à quel point il était désolé et qu'il apprenait avec la création de ce groupe ce qui s'était passé à Saint-François-Xavier et que si j'avais besoin de quoi que ce soit, qu'il m'aiderait, qu'il nous aiderait, qu'il serait là pour les victimes.
Votre objectif, c'est de demander justice ?
Non. Mon objectif principal, c'est que les gens puissent expliquer ce qu'ils ont vécu, raconter et par ce fait... retrouver une vie normale et pouvoir vivre normalement. C'est juste la récolte du témoignage. Maintenant, si pour certains c'est important de porter plainte, je serai à leur côté.
Voilà, et c'est surtout peut-être aussi pour que ça se reproduise plus.
Oui, surtout pour que ça se reproduise plus, c'est sûr. Je pense que maintenant, quand même, c'est assez surveillé, assez contrôlé. J'ose espérer que ça n'existe plus.
Merci beaucoup, Gilles Parent.
De rien.